conférences et débats.
Bonsoir mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir de recevoir Diane Brasseur, Duna Lou et Gabriela Zalapi pour cette rencontre. C'est la première fois que vous vous voyez, vous connaissez ? Prenez vos micros, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes déjà rencontrés ?
Pour oui. Ma part, oui.
Avec, oui. En fait, les trois, vous connaissez toutes ?
Oui,
on voilà. Se connaît. Alors, peu de temps.
Depuis hier soir.
Depuis hier
Diane.
Soir. Ah oui.
Depuis hier après-midi.
Donc c'est de fraîche date. Oui. Est-ce que vous vous êtes lues les unes les autres ?
Oui.
Vous avez tout lu ?
Non.
Non, je veux dire des trois livres d'aujourd'hui.
Moi j'ai lu le roman de Gabriela et je n'ai pas encore lu le roman de Duna.
Donc, Gabriela Zalapi, Antonia, journal 1965-1966, et vous n'avez pas encore lu Déployé de Duna Lou. Et vous-même, Duna Lou, vous avez lu la partition de Diane Brasseur.
Je ne l'ai pas encore fini. Donc je
mais
l'ai
vous,
pas
êtes,
lu
vous êtes en bonne voie.
Oui. Voilà. Et puis, par contre, j'ai pu lire jusqu'au bout Antonia.
Voilà. Et vous
ouais. Moi, j'ai lu. Les deux livres, mais pas jusqu'au bout les deux livres.
Pas jusqu'au bout les deux livres. Alors, moi j'ai lu les trois jusqu'au bout.
Bravo, bravo.
Avec beaucoup de plaisir. Et je vais commencer par Gabriela Zalapi. J'ai noté anglaise, italienne et suisse. C'est juste ?
Oui.
Jusque-là, c'est juste. Née à Palerme ? Enfance à Palerme ?
Oui.
Mais depuis l'âge de 10 ans à Genève.
Oui.
New York.
Oui.
Aujourd'hui à Paris.
Oui.
Grand voyage à Cuba et en Inde.
Oui.
Donc Internet est quand même assez fiable.
Ah, c'est redoutable Internet.
Voilà. Études à la HED, ça se dit HED.
Oui.
Haute école d'art.
Et de design.
Et de design.
Moi,
de
ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque où je l'ai faite. Mais...
C'était les beaux-arts. C'était,
ouais,
plus
c'était
clair.
Les beaux-arts, puis l'école supérieure d'art visuel. Enfin, ça a changé.
Voilà. Et vous êtes plasticienne.
Oui. Je suis peintre.
Maintenant, vous êtes écrivaine.
Ouais.
C'est la première chose que vous avez publiée.
Il faut. Et on va être sûr dans le mais temps à dire, venir. Pour
c'est le premier livre que vous publiez.
Oui.
Voilà. Et c'est. Un petit livre très très dense, très concis pour un on peut pas dire roman, c'est pas un roman, c'est un journal. Il fait même pas 100 pages. Donc j'ai admiré la concision parce que c'est assez rare. Votre premier roman Duna Lou faisait combien de pages ?
Oui, plus que 100 pages, mais je sais plus.
Enfin, le premier livre, c'était Mopaya, c'était votre récit de voyage. C'est ça le premier livre qui est paru.
Le récit de vie, oui, d'un réfugié du Congo.
Voilà, un trajet du Congo en Suisse.
Mm-hmm, oui.
Enfin, un voyage, un destin plutôt
oui,
qu'un voyage.
Oui.
Parce que vous êtes né à Genève, mais j'ai lu que c'était de parents marionnettistes, ce qui fait rêver. C'est
oui.
Vrai?
Oui, c'est vrai.
Ils vivent de leurs marionnettes, de leur spectacle.
Oui, enfin maintenant ils arrivent à la retraite.
Donc vous avez vécu dans un environnement de marionnettes.
Oui, d'histoires et de marionnettes.
Et vous racontez des histoires, c'est il y a peut-être un lien, vous nous direz tout à l'heure. Enfance dans la Drôme.
Oui.
Vous étiez où ? Si c'est pas indiscret.
Non, près de Montélimar. Dans les montagnes drômoises.
Et puis, voyage à Madagascar. Vous vivez maintenant à Nantes, ce qui est assez différent, disons, de Genève, Drôme, Madagascar. Et votre livre est très différent des précédents. Le premier, c'était L'Embrasure, qui est paru le premier roman. Prix Schiller, du premier roman, en 2010. Les lignes de ta paume en 2012. Moi, je me souviens de L'Orager, qui a reçu 3 prix en 2015. Et puis maintenant, Déployé, qui est un objet, on dirait un livre, mais si vous l'ouvrez, tout tombe. Parce que ce sont sept livrets, sept, c'est juste.
Oui.
Qu'on peut lire dans un, qu'on doit lire dans un ordre aléatoire.
Oui.
Alors, première question technique, quand ils sont mis en page, mis en place dans le coffret, ils sont toujours dans le même ordre ou c'est aléatoire?
Non, chez l'imprimeur, c'est pas aléatoire, parce que l'aléatoire et l'imprimerie, ça fait pas forcément bon ménage, quoi.
Donc, chaque lecteur qui a pas d'imagination va le lire dans le même ordre.
Malheureusement, ouais, les lecteurs trop sages, ils vont tous lire dans le même ordre, qui est un ordre totalement aléatoire auquel ils peuvent s'accrocher en se disant qu'ils vont le garder comme ça, mais c'est pas du tout. C'est un ordre de fabrication pour que ça tienne bien dans le livret, en
oui,
fait.
Oui. Alors, on va revenir à cet aspect assez particulier de votre livre tout à l'heure. Diane Brasseur, franco-suisse, enfance à Strasbourg, études en Angleterre.
Oui.
Toutes vos études en Angleterre?
Non, juste une année.
Ah, et puis études de cinéma à Paris.
Oui.
Ensuite, script.
Oui.
À tourner avec Albert Dupontel. Tourner, vous étiez actrice ou script?
Script.
Script, donc vous êtes jamais allé de l'autre côté de la caméra?
Non, peut-être à part un jour où un acteur manquait, où j'ai fait une silhouette pour dépanner, mais ça...
Vous n'êtes pas actrice, vous n'avez pas envie d'être actrice?
Non, oh non.
Un premier roman en 2014, Les Fidélités, déjà traduit en 8 langues. Mm-hmm. Ça c'est assez rare quand même qu'un premier roman soit traduit en 8 langues.
Oui, ah, j'étais ravie. Quand même.
Ah oui, je pense. Et en 2015, Je ne veux pas d'une passion, c'est un titre...
Lourd à porter.
Voilà. Alors aujourd'hui, la partition, c'est donc le troisième, c'est juste ou j'en ai oublié?
C'est juste.
Un gros livre. Une longue histoire, une fresque. Alors on va commencer par la fresque. Un résumé que j'ai trouvé dit « Amour flamboyant entre la Grèce et la Suisse » avec un sens du contrepoint dramatique. C'est la Tribune de Genève qui a écrit ça. Vous vous reconnaissez là-dedans? J'ai été surprise. Moi, je ne l'ai pas lu comme ça.
Ouais, moi aussi, je suis surprise. Ouais. C'est pas,
je ne veux pas dire du mal des confrères, mais là, je ne l'ai pas du tout. Enfin, chaque lecteur lit autrement. Mais vous avez voulu faire une fresque d'amour flamboyante?
J'ai voulu répondre à une question, en fait. À la base des trois romans, il y a toujours une question que je me pose, une énigme. Et là,
chaque roman a son énigme.
Ah oui. Ah oui, c'est ce qui va me donner envie de me plonger un certain nombre d'heures et de rester à mon bureau un certain nombre d'heures. C'est de répondre à une question qui n'apparaît pas nécessairement dans le roman, mais moi, à l'origine, il y a une question.
Et est-ce là, qu'il est indiscret de vous poser la question de la question?
Ah non, pas du tout, au contraire. Dans le cas de la partition, il s'agit en fait d'une correspondance familiale donc, qui a existé, que j'ai retrouvée, de membres de ma famille que je ne connais pas. Et j'ai lu les lettres, et en les lisant, ce sont des lettres de Bruno K, j'ai gardé le nom de...
Il s'appelait vraiment comme ça?
Il s'appelait Bruno, et j'ai rajouté la lettre pour une toute petite distance, mais voilà, cette lettre-là me permet de faire un pas de côté. Et en lisant ces lettres, il y en avait beaucoup, hein, qui s'étalent entre 1942 et 1950, qui sont des lettres adressées à sa mère. J'ai été saisie, touchée, impressionnée, et je me suis dit, mais mon Dieu, pour quelle raison cet homme-là n'est pas devenu l'artiste qu'il rêvait de devenir? Et ça, voilà, c'est une question qui me touche de manière générale, quand j'ai l'occasion de rencontrer des gens, certaines personnes qui ont des grands rêves et qui n'ont pas la possibilité ou les moyens de les réaliser. Et en l'occurrence, comme ça touchait un membre de ma famille, et que c'est quelque chose qui m'a touchée de manière... peut-être que je n'ai pas su tout de suite mettre les mots dessus, d'ailleurs c'est pour ça que je cite l'exergue, on écrit toujours pour quelqu'un. Et à la base, voilà, je voulais répondre, comprendre comment cet homme-là, pourquoi il n'était pas devenu un auteur. Et d'une certaine manière, écrire la partition, c'était lui tendre le stylo, puisque toutes les lettres, enfin beaucoup de lettres, puisque tous les chapitres en fait s'ouvrent par une lettre à laquelle je n'ai absolument pas touché.
C'est donc parfaitement authentique.
Les lettres, oui. Et c'est pour ça que j'ai décidé de garder son nom, puisque ça a été une grosse question, puisqu'il a de la famille en Suisse qui est là. Et j'ai longuement réfléchi, puisque je suis allée quand même vers le roman, mais est-ce que je gardais ou pas le prénom, Et comme je ne voulais pas toucher aux lettres et que d'une certaine manière, ma démarche était de le faire publier, eh bien, j'ai décidé de garder son prénom et la première lettre de son nom de famille.
Alors, à la page 77, c'est « Je songe que peut-être tu aimerais savoir pourquoi je ne m'intéresse plus à moi-même. » En voici la véritable raison. Je ne dirai pas la suite. Vous ne l'avez pas encore lu. C'est très puissant quand on pense que ce n'est pas du tout fabriqué. J'ai pensé que vous aviez quand même... Comme il y a une reproduction de lettres, ça a l'air authentique, mais j'ai pensé que vous aviez un peu brodé.
Alors, la contrainte est un moteur. Comme tout premier postulat, le premier cadre que j'ai posé pour écrire, c'était « je garde les lettres telles quelles, les lettres je n'y touche pas ». Et d'ailleurs, c'était marrant parce que quand le livre est parti chez les correcteurs, que le manuscrit me revenait, les lettres étaient constamment corrigées, les virgules enlevées, etc. Et je dis non, 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 les lettres, on n'y touche pas, on les laisse telles quelles, avec certains helvétismes, certaines fautes, etc. Donc les lettres sont, voilà, c'est le premier cadre que j'ai posé, sont des vraies lettres.
Donc, vous partez d'une correspondance réelle, Gabrielle Zalapi, vous partez de quelque chose de réel aussi.
Oui, je suis aussi partie de documents réels, d'images surtout, en fait, principalement.
Est-ce que vous pouvez élaborer un tout petit peu, s'il vous plaît?
En fait, je me suis plongée pendant un an dans des images d'archives.
Des archives familiales.
Des archives familiales. Et j'ai essayé de raconter une histoire à partir des images uniquement. Et ce fut un échec cuisant. Donc, j'ai recommencé. Et cette fois, j'ai essayé de... En fait, j'ai été plus loin, on va dire. Enfin, cet échec m'a donné envie d'essayer à travers l'écriture de raconter l'histoire de cette femme.
Alors, cette femme, elle a existé. Mm-hmm. C'est quelqu'un de réel.
Oui. Oui et non, parce que je me suis inspirée d'un personnage réel. Après, je l'ai aussi fictionalisé.
Donc, vous aviez des photos, mais pas les textes.
Voilà.
Aucun texte ? Ou bien vous aviez des lettres, vous aviez des...
Oui, très peu lui appartenant, en fait.
Et est-ce qu'il y avait de la documentation sur elle? Vous avez tout recréé par votre connaissance de la famille et du temps?
J'ai recréé à travers différents types de récits, en fait.
Qu'est-ce que vous voulez dire, différents types de récits?
Je pense que dans une famille, il y a toujours différents récits. Les personnes, les lettres, les images, les membres de la famille ont chacun un récit propre. Si vous mettez votre oncle ou votre fils devant le même album de photos de famille, l'histoire ne sera pas la même. Oui. Et donc voilà, j'ai entrecroisé un peu tout ça, j'ai ajouté de l'image, j'ai ajouté des mots.
Attendez, voilà, c'est un peu court quand même. Excusez-moi, mais je vais vous persécuter encore un peu. Mais il faut comprendre. Enfin, on a envie de savoir comment ça se passe. Parce que cette femme, c'est une année de journal.
Deux ans,
65-66. Elle est à Palerme. Elle est d'origine à la fois viennoise et anglaise, mais d'anglais vivant en Italie,
oui.
En Sicile. Mm-hmm. Elle épouse un bourgeois assez assommant.
Mm-hmm. Oui.
Et elle écrit. Mm-hmm. Au moment où vous vous mettez dans sa peau, qu'est-ce que vous avez comme information précise, réelle, je veux dire, j'essaie de voir le rapport de la réalité à la fiction.
Mais en fait, pardonnez-moi, mais je pense que c'est pas forcément là que se situe la chose la
Alors,
plus.
Alors où se situe-t-elle?
Je pense qu'elle se situe dans comment le croisement entre les croisements entre différents matériaux peut mettre en route l'imaginaire, et comment à partir de ça on peut créer une nouvelle réalité. On peut créer un récit, en fait. Oui. C'est ça aussi la littérature.
C'est que ça, en principe. Enfin, comme il y a un départ, il y a des images qui sont de gens réels, il y a des dates, il y a des choses très précises. On essaye de se raccrocher et de savoir. On est tout le temps en train de se demander vrai, inventé, est-ce un personnage totalement fictif, est-ce vraiment votre grand-mère, enfin voilà.
Les photos que j'ai choisies, c'est des photos qui sont, pour la plupart, parlent de la suspension. Et je pense que c'est là que se situe, en fait, la ligne. C'est à partir de documents, à partir d'images, à partir de récits, de témoignages, de choses que j'ai entendues, qu'on m'a dites. Je pense que voilà, j'ai essayé de rester dans une ligne suspendue à travers tout ça.
Moi, j'essaie aussi de rester dans la suspension pour ne pas dire ce qui se passe, parce que comme les auditeurs n'ont pas lu le livre, il ne faut pas qu'on leur raconte trop de détails. Donc c'est un peu délicat, mais c'est un chemin.
C'est le chemin que fait une femme qui vit dans une situation où elle vit dans un cadre très bourgeois à Palerme. Elle a un fils, elle est mère d'eux, elle est femme d'eux, et elle sent que dans ce cadre, elle n'a aucun avenir, qu'elle est en train de mourir. Et en fait, c'est son chemin pour se sortir de l'enfermement, c'est son chemin aussi à travers elle se réapproprie des documents d'archives qu'elle découvre et qui lui permettent de comprendre d'où elle vient et où se situe son premier enfermement, on va dire, qui est le fait d'être une enfant non aimée. Voilà.
Il y a quand même des personnages qui l'aiment.
Il y en a un vraiment qui l'aime.
Ah, j'en ai vu deux, mais peut-être
oui,
je me suis
trompée.
Oui, ou
deux, non, vous avez raison, deux.
Alors, Donalou, vous n'êtes pas partie sur la base d'une archive familiale. C'est une démarche complètement différente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu de quoi il est question dans ces livrets qu'on peut éparpiller et lire dans un ordre aléatoire?
Il est question, c'est ce qui fait que ça tient ensemble, disons, c'est cette livret où le point commun, c'est un personnage surtout central d'une femme qui s'appelle Ellie et du couple qu'elle forme avec Danis aussi. Et c'est différentes entrées possibles autour de ce couple et de leur relation, des questions que se pose Ellie à différents moments aussi de sa vie pour moi cette forme de livret, elle permettait justement un peu une circulation aléatoire et circulaire comme la mémoire et les souvenirs. Donc c'est une femme qui se questionne, c'est un cheminement intérieur aussi beaucoup. Voilà.
Alors on peut la suivre, on peut passer des lettres de la chambre secrète, donc il y a des lettres quand même. Souvenir source, alors ça c'est encore autre chose. Cette nuit-là, ce sont des chapitres, mais c'est autre chose que des chapitres. Comment est-ce que vous les avez conçus? Est-ce qu'il y en a des minces, il y en a des épais?
Il y en a qui sont beaucoup, qui sont très très courts, il y en a qui sont... Il y a vraiment des tailles différentes, et à chaque fois c'est un peu une entrée différente. Et après je la suis. Lettre de la chambre secrète, c'est presque un journal, ou une sorte de lettre, mais qui sont plus une sorte de journal, où elle s'écrit à elle-même, oui. En fait, Ellie. Dans cette nuit-là, on est plus à la troisième personne du singulier, donc Ellie est... et pas forcément ne parle pas forcément au jeu. Après, dans d'autres livrets, mais ça tourne beaucoup dans cette nuit-là autour du couple et d'un moment de crise du couple et de cette nuit à traverser ensemble. Donc, comment ils vont en ressortir ensemble ou pas? Et puis après, il y a comment je les ai conçus. J'ai aussi d'autres moments. Il y a ici là qui est plutôt une entrée autour d'un ami mort et de tout ce à quoi ça lui fait penser. Un autre moment où justement dans cette confrontation à la mort, elle se rend dans un centre funéraire et elle parce qu'elle est artiste. Plasticienne.
Oui, hein, elle est plasticienne, oui.
Et pour faire des photographies et en même temps lui reviennent aussi différents souvenirs. Donc c'était des démarrages avec des moments particuliers et puis ensuite je déroule quand même un fil dans ces livrets.
La forme était extrêmement importante pour vous. Elle s'est imposée ou bien vous avez eu l'idée d'un livre éclaté et accessible par différents chemins, et vous l'avez réalisé. Comment ça s'est passé?
Mais il y a les deux. En fait, il y avait cette idée d'un livre explosé qui puisse se lire dans tous les sens depuis longtemps. Et puis, quand j'ai commencé à écrire ce qui est devenu un des livrets, qui aurait pu être un roman où je serais allée jusqu'au bout, j'ai repensé à cette forme et j'ai eu envie de l'essayer pour ce projet-là, parce que ça me semblait pertinent vu l'envie d'explorer autour de cette femme et de ses réflexions de la mémoire circulaire.
Une question terre à terre. Ça a été difficile de convaincre l'éditrice d'accepter de réaliser cet objet particulier?
Eh bien, non, chez Zoé...
Je sais qu'elle est là. Hein, je sais qu'elle est là.
Non, Caroline Couteau a pas, ça c'était pas un critère qui l'a effrayé ni rebuté. Voilà, c'était plus une curiosité. Et ensuite, qu'elle a pu être convaincue.
Elle en a vu la nécessité.
Oui, et puis après on a élaboré comment c'était possible concrètement de le réaliser. Mais ça c'est pas. Elle m'a accompagnée plus dans l'écriture et dans le texte, mais la forme n'a pas été remise en question de ce côté-là.
Diane Brasseur, vous êtes accompagnée dans l'écriture? Votre éditeur s'intéresse à ce que vous faites en cours de route ou bien vous envoyez le produit fini et hop, ça paraît?
Alors, pour le premier, j'avais pas de cadre. Quand je lui avais envoyé le manuscrit, donc il avait une importance capitale. Pour le deuxième, idem, on avait complètement restructuré. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand je vois les différents livrets, ça me fait penser à du montage en cinéma. Et c'est ce qu'on avait fait pour mon deuxième roman. On l'avait vraiment complètement restructuré après qu'il l'ait lu.
Vous voulez dire que vous aviez modifié l'ordre des chapitres?
Toute la structure, ouais, complètement. En fait, on avait repris et on avait remélangé complètement. Et c'est à la suite de ça, par orgueil un peu, et je me suis dit que je suis allée lui déposer un troisième manuscrit et qu'il allait surtout n'avoir rien à faire dessus. Bon, ça, ce qui est impossible, mais effectivement, sur le dernier, la maison d'édition a très peu retouché. Donc ça, j'étais contente.
Donc ils ne vous ont pas dit, il y a trop de personnages, c'est trop long, il faut enlever 50 pages, ici on peut enlever tout ce chapitre. On en parlait tout à l'heure avec Brice Mathieu-Saint, qui a retiré à la demande de son éditeur un pan entier qui fera un autre roman, parce que c'était une pièce un peu rapportée, et il a reconnu que ce serait mieux. Alors il y a tout d'un coup 40% du livre qui sont partis. Ça ne vous est pas arrivé?
Non, au contraire, la seule chose qu'il m'a dite quand on s'est vus, parce que je lui ai remis le manuscrit le 6 janvier, il l'a lu le 16, et le livre est sorti le 2 mai. Donc c'est des temps qui sont très très courts. Et la seule chose qu'il m'a demandé, c'est de changer le titre, et c'était pas la partition à l'époque, et de rajouter un chapitre sur la guerre. La guerre était un peu absente, parce que je pense que j'étais trop intimidée par cette période pour m'y attaquer.
Vous avez rajouté le chapitre qui se passe à Bruxelles?
Oui, il apprend en fait un matin, Bruno K, donc pas à Bruxelles, à Lausanne. Un matin, il sort de l'université et il apprend que Bruxelles a été bombardée.
Voilà. Juste, oui. Ça, vous l'avez rajouté à la demande de l'éditeur pour la clarté du récit.
Parce qu'il trouvait, et il avait raison, que la guerre était quand même très absente, alors que le roman a lieu à un moment donné, enfin, voilà, entre 42, 43, je m'installe vraiment dans ces années-là, et c'est vrai que ne pas, même s'il est en Suisse, qui est un pays neutre, ne pas du tout en parler à ce moment-là, c'était, et il a raison, il a touché du doigt quelque chose, c'est-à-dire que moi, je n'osais pas y aller, et il a eu raison de me pousser vers là.
J'aurais plein de questions, mais je veux pas faire. On n'est pas en train de faire l'interview sur ce livre, donc voilà. C'est des détails de construction qui m'intriguent parce qu'effectivement, il est ici, sa famille est à Bruxelles. Oui. Après, il y a la Grèce. Enfin, il y a beaucoup de va-et-vient, d'aller-retour. Comment vous avez réussi à faire tenir tout ça tout en tenant compte de la réalité, parce que ça s'est vraiment passé ainsi?
Alors, c'est là où ça devient subtil, c'est-à-dire qu'il y a une matière réelle qui existe, les lettres. Moi, j'ai rencontré quelques personnes qui ont connu Bruno, donc ses filles et une de ses femmes, et son frère. J'ai posé des questions, et quand j'ai eu... Et ça a pris déjà beaucoup de temps. Lire les lettres, ça a pris 6 mois, et je lisais intensément, c'était vraiment... Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de lettres. Et une fois que j'ai fait toutes ces interviews et que j'ai lu toutes ces lettres, la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis empressée de tout oublier pour que ne reste que l'essentiel. Et c'est à partir de là où, armée de post-it et de morceaux de scotch sur les murs de mon appartement que j'étais sur le point de quitter, puisque j'ai déménagé, et c'était la dernière chose qui restait dans l'appartement, c'était ces petits post-it volants, j'ai travaillé sur la structure du roman parce que justement je ne voulais pas me retrouver dans la même situation que pour le deuxième où on avait tout restructuré et c'était sportif. Donc je me suis dit bon, on va essayer de faire les choses dans l'ordre. Ce que mon éditeur avait dit quand je lui avais parlé du projet la première fois, il m'avait dit tu ne peux pas escalader une montagne en tongs. Donc j'ai cru comprendre que les chaussures de marche, ça voulait dire travailler la structure. Ça, travailler sur cette structure, ça a pris beaucoup de temps, ça a pris 6 mois, et c'est très drôle parce que les gens vous demandent, alors tu écris en ce moment, et je n'avais pas écrit une ligne, et pourtant ça faisait 6 mois que je travaillais sur le roman, donc j'avais très peur, je me disais, mais ça se trouve, il ne va jamais s'écrire. Mais j'étais avec mes post-it.
Donc vous faisiez ce que les magazines appellent un chemin de fer avec la suite au mur pour visualiser l'objet.
Oui, ou ce qu'on fait au montage. C'est-à-dire qu'en montage, en cinéma, puisque je suis script, moi je travaille, en fait on va dire qu'il y a 3 étapes pour un film. Il y a l'écriture du scénario, il y a le tournage, où j'interviens en tant que script, et il y a le montage. Et au montage, ce que beaucoup de monteurs font, c'est qu'ils vont imprimer un photogramme de la séquence. Donc c'est une image avec le titre de la séquence et peut-être un résumé en une phrase et la coller au mur. Et donc ils ont ce chemin de fer là. Et donc ils ont toujours la représentation visuelle du film alors qu'ils sont en train de monter une séquence. Parce que parfois il y a des pans entiers qui vont passer au début ou à la fin. Je me suis surtout inspirée du montage. Et pour la structure générale, et pour la manière de travailler chaque chapitre. Je suis allée traîner un peu en salle de montage avant d'écrire le livre.
Gabriel Azalapi, vous n'avez pas eu ce genre de problème de montage, puisque c'est une structure linéaire, un journal. Mais vous avez eu quand même un problème de montage, parce qu'il fallait faire intervenir les éléments dans un certain ordre. Comment est-ce que vous avez procédé, en recréant ce journal?
Non, mais en fait, je comprends très bien ce que dit Diane, parce que j'ai fait un peu pareil. Enfin, c'est là où la fiction entre en ligne de compte à partir de documents, en fait. C'est que, oui, c'est un journal qui... Mais j'ai parfois utilisé des choses qui avaient été écrites ou qui s'étaient passées après, je les ai mis. J'ai changé de l'ordre.
La temporalité n'est pas tout à fait
chronologique, non. Oui. Voilà.
J'attendais un peu plus.
Oui, ah, pardon.
Sentez-vous libre.
Oui, non.
Ce matériau que vous aviez,
oui.
Visuel au départ, et puis vous aviez un matériau de... Vous avez dit le regard des personnes, donc vous avez interrogé les gens.
J'ai surtout regardé des images.
Vous avez dit que les récits étaient différents selon le point de vue.
Oui.
C'était dans votre tête ou c'était en discutant avec des gens de la famille?
Un peu tout. Enfin... Je vois que vous me cuisinez sur cette question.
Dites-moi ce que vous avez envie de dire, alors, si mes questions vous ennuient.
Je pense à la phrase de Amos Oz qui dit « Tout est autobiographique, rien n'est une confession. Enfin, » Et ce qui est le plus important, c'est le rapport du lecteur au texte. Et c'est comment lui se l'approprie, lui en fait quelque chose, comment le texte met en marche son désir, son imaginaire. Et finalement, la cuisine interne de l'auteur, c'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel.
Quoi l'essentiel?
Mais c'est ce que le lecteur, comment il s'approprie.
Mais c'est vous qui parlez, moi je ne peux pas demander au lecteur.
On peut demander
aux lectrices, peut-être.
Oui, on peut demander aux lectrices, on peut aller interroger les lecteurs. Enfin,
voilà, alors le format du livre sur les quais, c'est que c'est les auteurs qui parlent.
Oui. Non, mais.
je ne peux pas en sortir. Donc. Je peux arrêter de vous poser des questions si
non,
vous
non, 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 mais non, je, mais c'est je... pas, non, c'est pas que je veux. Non, mais par contre, peut-être que, enfin, dans comment j'ai écrit ce texte, en fait, pour moi, c'était la place du lecteur était très importante. En fait, j'avais envie de lui laisser une place vraiment, que ce soit, il y a les images, il y a le texte, et que le lecteur ait la place de se faire sa troisième image, s'inventer son film, ses images. Et j'ai travaillé surtout comme ça, en réalité. Document, pas document, tarara. L'important, c'était de le structurer de telle façon à ce que ce soit suffisamment aéré, que ça en dise suffisamment, mais pas trop, pour que les lecteurs et les lectrices puissent se l'approprier.
Pour décrire l'émancipation d'une femme.
Pour décrire une femme qui cherche à sortir de son enfermement et tous les paradoxes et le quotidien et les recettes de cuisine et le rapport à son fils et son incapacité à être mère et son incapacité à aimer et son histoire et les membres de sa famille. Un peu tout ça.
Je vous remercie. Je salue l'effort.
Non, pardon, mais peut-être que c'est moi qui comprends mal les questions.
Donalou, vous l'avez lu?
Oui.
Est-ce que ça c'est en résonance avec les questions que Ellie se pose?
Dans
un monde totalement différent,
oui,
avec des relations sentimentales complètement autres, mais est-ce qu'il y a quelque chose de commun?
Oui, je pense qu'il y a quelque chose de commun. Enfin, il y a des choses qui m'ont fait écho ou qui peuvent se rejoindre, je pense. Et aussi, en lisant aussi vos deux textes, du coup, de façon très proche, très rapide, il y avait tout à coup des échos aussi, parce qu'il y a des grands-parents italiens aussi. Enfin, il y a tout à coup entre toute l'Europe là, et ses voyages et cette époque et l'enfermement d'une... Enfin, dans la partition, il y a aussi cette femme qui quitte tout par amour et qui croit qu'elle va connaître le grand amour et puis qui déchante assez vite en arrivant en Suisse. Et puis, Antonia, on retrouve aussi, elle en parle un petit peu de l'utopie qu'il y a eu au début, d'avoir cru que peut-être en épousant cet homme, elle allait vivre autre chose que ce qu'elle se retrouve à vivre. Dans Déployer, il y a aussi ça, elle se remémore le début, comment au début de l'amour ou de l'engagement, on a une certaine image de l'amour et de l'engagement, et comment 10 ans après, on vit, tout à coup, il y a des choses qui ont bougé ou au contraire qui ne bougent plus, et comment on remet du mouvement dans ce qui ne bouge plus. Et voilà, c'était un peu autour de ces questions-là. Et là, il y a aussi dans Antonia, et là, c'est même encore plus fort, quelque chose qui se... Il y a une emprise très très forte et quelque chose qui est figé dont elle... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai lu comme ça, et je pense que je comprends bien. Je trouve que cette forme du journal qui est choisie, que tu as choisie dans Antonia, est vraiment justement cette forme elliptique d'écrire avec beaucoup de creux, d'ombre, et de tout à coup, il y a justement cette liste de menus, et puis on se représente toute une scène, toute une soirée de mondanité avec juste... Voilà, le détail du menu de la soirée, et puis une petite phrase, et ça permet cette concision. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je l'ai lu. Il y a peu qui est dit, mais nous, on a cette place, en tout cas, d'évocation et d'imaginaire.
Ces creux sont vastes pour le lecteur, qui peut les remplir s'il travaille un peu, s'il a un peu d'imagination. L'histoire de Kula, qui traverse l'Europe au cours de cette vie, parce que vous partez de Bruno K, et puis c'est sa mère, c'est le portrait de sa mère, beaucoup. En fait, pour moi, j'ai eu plus le portrait de sa mère que de lui. On sait beaucoup de choses de lui, mais la substance, c'est elle, la puissance, la force, l'énergie, le drame, c'est la femme.
Allez-y.
J'ai fini.
Je dirais que ça, c'était la chose la plus inattendue. C'est-à-dire que moi, je pensais écrire un roman sur Bruno. Et depuis qu'il est sorti, j'ai compris que j'avais surtout écrit un roman sur sa mère.
Vous l'avez compris après la parution ?
Oui.
C'est sidérant, hein ?
J'ai quand même eu une petite intuition à un moment donné en écrivant, parce que je me suis posé la question du point de vue, qui depuis le début me turlupinait, parce que mes deux premiers romans étaient au jeu, donc à la première personne, et j'ai essayé de commencer le troisième à la première personne, et ça ne marchait pas, et en fait, rétrospectivement je comprends, c'est parce que je voulais citer les lettres, donc il ne pouvait pas y avoir deux fois jeu, ça ne marchait pas.
Vous essayez d'être Bruno ?
Non, j'étais moi.
Ah, c'était vous qui racontiez ?
Qui découvrait, ouais, ouais.
La découverte de la correspondance et l'enquête, au fond.
Ouais.
Ah, oui.
Ça ne marchait pas. Et c'est là où j'ai décidé de passer à la troisième personne. Et donc, je me suis quand même beaucoup, beaucoup posé cette question du point de vue, qui m'intéresse aussi beaucoup à cause des tournages. Et puis, comme tu disais, quoi, c'est la mise en scène, c'est le point de vue, c'est où est-ce que tu places ta caméra, et si tu la, c'est ce qui est. Il y aura pas deux personnes qui vont raconter la même histoire. J'ai perdu le fil. Ah oui, et à un moment donné où justement je m'interrogeais, je travaillais justement, je me posais cette question du point de vue. Je me disais, mais mon Dieu, mais je suis plus du côté de Kula que du côté de Bruno. À ce moment-là, j'ai décidé, je me suis amusée à commencer un chapitre avec un personnage qu'on ne recroisera jamais, que j'ai appelé Hans Schmidt, pour sortir et rajouter un tout autre point de vue, un peu à la The Big Lebowski, où le narrateur est ce cow-boy qu'on complètement extérieure à l'histoire. Et donc là, je me suis amusée à carrément rajouter un... Comme je me suis dit, bon, bah, je ne sais plus quel est mon point de vue, je sais que je suis carrément allée jusqu'au bout de ça. Et dans un chapitre, j'ai créé un tout autre point de vue. Et donc, on a un homme qui s'appelle Hans Schmidt, qui prend le train, qui est en face de Kula. Et alors que Kula est sur le point de faire le choix, un choix difficile, enfin, donc elle doit abandonner un de ses deux enfants pour pouvoir rentrer en Grèce, cet homme-là la regarde de l'extérieur et il est complètement à côté de la plaque. Donc il voit pas du tout ce qui s'est passé. Et ça, je me suis amusée justement parce que, alors que j'étais en train d'écrire, je me disais, mais quel est le point de vue? Et donc j'en ai pris carrément un. Est-ce que j'ai le droit de poser une question à Gabriela?
Oui, allez-y. Elle aime les questions.
Et juste moi comme ça.
Moi, je voulais savoir comment, enfin, si tu savais, puisque donc tu es artiste plasticienne peintre, donc pendant des années, ton mode d'expression n'était pas l'écriture, il me semble, si tu as toujours su qu'à un moment donné ou un autre, tu allais écrire.
Alors, avant, je t'aurais répondu une chose, maintenant je réponds un autre. Parce qu'en fait, j'ai toujours écrit, en tout cas je me suis toujours amusée à gribouiller, on va dire. Et là, je suis en résidence d'écriture. Et donc ça fait 3 semaines que je suis dans un espèce de silence comme ça, avec la page, les pages. Et je me suis dit, mais vraiment, t'es gonflée d'avoir dit que... En fait, oui, t'as toujours écrit, mais c'est pas du tout vrai. Enfin, je réalise que cette écriture, c'est vraiment... je crois que... avant, pour moi, écrire, c'était un endroit où je sortais de mon langage non-verbal, le langage des surfaces colorées, des lignes, etc. Et puis que ça me permettait d'être dans un ailleurs, d'être dans un espace de jeu. Et je pense que avec Antonia, j'étais dans un espace de jeu. En fait, je me suis amusée aussi à écrire ce livre. Et maintenant, je suis dans un corps à corps terrible. Vraiment, je me prends au collet là avec le texte. Le mot, les phrases, les images retranscrites ont toujours été là. Après, elles avaient une ambition ou pas. Elles n'avaient pas trop d'ambition. Maintenant, il y en a, alors ça change tout. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, j'essaie de faire le mieux que je peux.
C'est Antonia qui a créé cette ambition?
Ouais, c'est... comme je disais, je me suis amusée, j'étais tout d'un coup, je me sentais libre en fait. Avec la peinture, je me sentais plus libre à un moment donné. J'étais plus dans un espace créatif où les frontières, j'arrivais à les pousser facilement avec désir, avec envie. Tout d'un coup, je me suis sentie vraiment coincée là sur cette toile et c'était voilà. Alors l'écrit, ça m'a permis de retrouver ce désir en fait d'expression, d'espace. Avec davantage de liberté.
C'est vraiment bien votre conversation. Continuez. Allez-y. Je vous écoute. Bon, Duna, lorsque vous écrivez, vous avez cette sensation de liberté ou vous avez l'impression que c'est quelque chose... Il y a une contrainte, il y a un devoir, il y a une obligation, il y a quelque chose qui vous tient?
Non, enfin, un devoir, une obligation, non, en tout cas pas, heureusement, quoi, pas dans le sens, oui, que de puisque personne de l'extérieur vient me demander d'écrire, quoi.
Mais de vous-même.
Et de moi-même, je pense qu'il y a les deux mouvements, quoi. Il y a des moments, justement, de grande liberté, et au contraire, où c'est peut-être l'endroit où je me sens le plus pouvoir exercer le plus pleinement cette liberté. Et puis il y a des moments aussi de contre le mur, quoi, ou d'enfermement, où il faut arriver à comme qui de blocage, et puis ça se dépasse, et puis aussi, je dirais qu'au fil des livres, je me sens différemment aussi dans cette écriture. Il y a quelque chose qui se transforme.
Le fait d'avoir écrit ce livre sous cette forme de livret aléatoire donne au lecteur une liberté presque indue, presque inquiétante d'ailleurs, parce que moi j'ai fait l'exercice de le lire dans des ordres différents. Enfin, j'ai pas tout lu dans des ordres différents, mais j'ai fait l'exercice et ça m'a pas seulement perturbé, je vous l'avoue, parce que
pourquoi?
Alors parce que j'ai l'habitude d'un récit. Alors, il y a des récits qui sont construits comme ci ou comme ça, on revient en arrière ou pas. Là, je viens de lire le livre de Philip Forrest, qui est un drame shakespearien qui se passe en 1954. Donc, mais c'est construit comme une pièce de théâtre qu'on nous raconte. Mais chez vous, il y a une liberté qui fait peur, parce qu'on a l'impression de rater quelque chose, forcément. C'est forcément faux. puisque tout est possible, il y a 5040 possibilités. Mm-hmm. Quelle est la bonne?
mais c'est très bien si vous posez ces questions. Moi je suis ravie, et c'est vrai, il y a beaucoup d'échanges et de retours comme ça, et je me dis, pour moi, dans ce que je raconte aussi, dans le sens même des questions d'Élie, il y a cette question de la liberté justement qui est essentielle, qui traverse tous les livrets. Et si elle,
parce que la liberté, c'est sa grande question, en fait.
Oui, et elle amène une responsabilité. Et tout à coup, le lecteur qui est devant ces 7 livrets, effectivement, il est forcé de faire un choix, en fait. Et la question du choix, elle est aussi essentielle dans ces livrets. C'est si je choisis d'un côté, je perds de l'autre. Qu'est-ce que j'ouvre d'un côté, je ferme de l'autre. Il y a tout le temps ce mouvement-là. Et pour moi, c'était important de susciter ça aussi chez le lecteur. Et en même temps, c'est aussi concrètement, moi, au fil des livres que j'écris, je ne sais pas pour vous, mais on se rend compte, et même si toi, c'est ton premier, que les retours qu'on va avoir, ils sont uniques à chacun. Chaque lecteur, il va lire, il lit son Antonia, il lit sa partition, il lit son déployé, parce qu'il y aura autant de lectures de tous nos livres là que de lecteurs dans la salle. Et là, c'est accentué encore plus, parce que on peut le lire dans un ordre qui va être différent, effectivement. Et du coup, moi, j'espère aussi susciter des questions sur, ah oui, ben, est-ce que si j'avais lu ce livret-là avant, comment j'aurais perçu l'histoire? Je trouve ça intéressant, en tout cas, de se poser ces questions-là, même si elles sont perturbantes, mais ça me déplaît pas de perturber le lecteur. Hein.
Mais moi, je trouve ça très fort de parler de cette notion de liberté par la forme et de mettre l'autre en situation, enfin en resituation, enfin de constamment garder cette liberté en mouvement, et de, je trouve ça bravo, quoi.
Alors, en même temps, quand on commence Antonia, c'est le 21 février 1965, on le termine le 3 novembre 1966. Votre livre n'est pas une histoire.
Non,
parce qu'il
n'y
a pas,
il y a pas
un début et une fin. Il y a quelque chose.
Oui,
et c'est autre chose. C'est un grand désarroi pour le lecteur, mm-hmm, qui a l'habitude qu'on lui raconte une histoire. Mm-hmm. Je sais pas, quand on lit la partition, on commence. Il y a une construction temporelle très élaborée qui fait qu'on commence en 1977. C'est la bonne date?
Oui.
Il est vraiment décédé,
oui,
ce jour-là?
Ce jour-là, oui.
Donc on sait tout de suite qu'il y a quelqu'un qui est mort ce jour-là. Au bout de 3 pages, on a compris. Puis après, il se passe plein de choses qui nous ramènent en arrière, en avant. Mais c'est quand même une histoire. Et déployer, c'est une histoire sans début ni fin. Et c'est très surprenant, disons. Pour vous, Diane, le fait de construire ce livre ainsi, avec ses allers-retours temporels et spatiaux, ça vous a amusé, ça correspondait à quoi? Parce que vous auriez pu le faire tout à fait autrement, en chronologique, puis...
Mais il me semble qu'il est quand même assez chronologique, à oui, part le départ...
Il commence par la fin,
oui, disons. Voilà, si je commence par la fin.
Oui, après c'est chronologique, mais, après, mais le fait de...
Mais après c'est à l'intérieur de chaque chapitre où c'est oui. toujours, je suis toujours dans une forme assez éclatée.
Oui.
Si bien que moi d'ailleurs, souvent j'avais peur de perdre les gens, puisque je pars toujours d'une situation, encore une fois le cinéma est vraiment là, en fait c'est plus que des chapitres, c'est souvent des scènes.
C'est visuel.
Ouais. Donc on part souvent d'une scène, et à l'intérieur on a des... soit des allées, soit des retours, soit des... Et, ça, et parfois, j'avais vraiment peur de perdre, que les gens se perdent. Et là, je me suis dit, bah, comme toi, je me suis dit, bah, c'est pas grave, tant pis, on peut se perdre. Et à un moment donné, en plus, c'est souvent intéressant de s'égarer un peu et on se raccroche.
Oui.
En même temps, c'est vrai que les heures tournent, les jours passent, les calendriers, mais la temporalité dans laquelle on peut vivre à l'intérieur n'est pas forcément la temporalité du quotidien.
Non, puisque vous avez des souvenirs qui surgissent, il y a des tas de choses.
Oui, oui. C'est ça. Donc, je pense qu'il me semble, en tout cas, moi, je suis dans le passé, je suis dans le présent, je suis dans le futur, je bricole avec ces trois temporalités du matin au soir.
Antonia nous fait vivre toute sa vie, et les générations, enfin, c'est clair, mais c'est quand même rythmé par le...
Oui, bien sûr, bien sûr.
Par le fil du journal.
Oui. Oui, mais c'est... Enfin, oui, j'ai perdu ce que je voulais dire.
Excusez-moi, je vous ai coupé, mais vous liez...
Non, mais ça va...
Ça revient, allez-y.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces rapports au temps, en fait, au temps, je pense que enfin, le temps, il est aussi éclaté et on peut faire des allers-retours. Non, mais j'ai perdu, sincèrement.
Oui, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, quand on écrit, c'est l'endroit... Moi, j'aime écrire parce que on a un tout autre rapport au temps quand on écrit. Et ça, je trouve ça passionnant. Je trouve qu'on est dans un temps, justement, on arrive enfin à un peu l'oublier, le dompter. Ou... J'ai l'impression que quand j'écris, le temps passe plus lentement. Donc ça, c'est...
C'est vrai c'est... Ah, plus lentement.
Ah ouais. Et ce qui me plaît, c'est, là où... c'est que il me semble que, justement, dans l'écriture, c'est là où on peut s'amuser avec le temps, c'est-à-dire l'étirer, donc faire d'une fraction de seconde 50 pages, ou au contraire passer 10 ans en deux lignes. Et ça, de s'amuser à ce point avec le temps, c'est un grand plaisir.
Vous vouliez intervenir tout à l'heure.
Oui, non, parce que ça me faisait écho. Enfin, moi, j'entendais dans ce que tu disais, ce qui pour moi était aussi le démarrage de déployer vraiment cette question du temps, elle est centrale. Parce que pour moi, j'avais envie de proposer une forme qui pour moi fait plus écho à ma perception du temps, qui n'est pas une perception linéaire, qui n'est pas une perception de justement de commencer à la page 1 et de quand je pense à ma vie ou avec une notion de temps. Je vois pas une ligne en fait, je vois plutôt une arborescence, des circularités, des choses qui se et le rapport au temps, oui, voilà. Enfin, c'était comme pour me dire, bah ouais, est-ce que je peux pas sortir et proposer quelque chose qui, pour moi, fait plus écho à la vie réelle vécue, en fait, à comment est perçu même le temps. Et je pense que ça, chacun en fait l'expérience. Des fois, une heure nous paraît, durer éternellement. Et puis, des fois, ça file à toute allure. Donc c'est que de la subjectivité et voilà, c'est pas une ligne quoi, c'est on peut l'éclater de différentes façons.
Alors, le temps tourne.
Justement.
Il faut que je donne la parole au public aussi. Qui désire intervenir? Il y a un micro. Où est-ce qu'il est? Il est là. Il est là. Si quelqu'un a envie d'intervenir, je sais pas si vous avez déjà lu, pas encore. Si vous avez pas, oui, non. C'était une question, madame? Non, c'est pas une question. Alors, on va continuer entre nous.
Mais vous faites si
vous voulez poser des questions. Oui, il y a quelqu'un qui a le micro. Monsieur, au premier rang.
Je n'ai pas lu ni l'ouvrage de Nunalo, ni celui de Gabriela Zalapi. La seule chose, c'est que je constate que les trois écrivains-là sont des femmes. C'est une évidence. Et ce qui me frappe par rapport à toutes les lectures que j'ai aujourd'hui, enfin, je me souviens surtout de lectures d'écrivains masculins, c'est que un livre écrit par un homme, en général, géométriquement, est dans les trois dimensions, verticale, horizontale, tandis que je pense que les livres que vous semblez écrire ne tiennent pas compte de cette rigidité. Le sentiment que j'ai, en particulier de ceux de Diane Brasseur aussi, ceux-là je les ai lus, c'est que ce sont des livres qui ne sont pas écrits lourdement, avec un ordre, avec un sens, avec une introduction, une suite, un chapitre, etc. Tout ça me paraît, le livre masculin me paraît d'une manière assez générale un livre très médiocre, d'une manière générale.
Alors mesdames, je vous laisse le soin de répondre sur la médiocrité des livres masculins et la qualité fluide et non arithmétique et géométrique des livres féminins. Diane.
Moi, je vais répondre puisque
vous êtes concernée. Là, monsieur vous a lu, donc il vous connaît.
Je le connais bien. C'est lui qui, c'est justement en réponse à ce genre de remarques que j'ai souvent entendu que j'ai pris plaisir à écrire justement pour contrer toute forme de généralité. Par exemple, les livres masculins sont médiocres. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si on peut dire d'un livre qu'il a été écrit par une femme. Enfin, moi, j'arrive pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de genre dans l'écriture.
Alors hier, on parlait avec Michel Laya, qui a écrit Sans Silke. Silke est une femme. Michel Laya est un homme. Il n'a pas de grave LE. Et il avait une lectrice qui attendait devant son stand et qui dit « Mais où est Michel Laya ?» Il dit « C'est moi. » Ben non, parce qu'elle l'avait lu, elle était certaine que seule une femme avait pu écrire ce livre. Donc ça doit être quand même quelque chose qui voilà.
Alors je sais que moi, pour mon premier roman, sans doute pour contredire mon père...
Ça c'est comme un plaisir qu'il faut... Contredire son père en public, c'est quand même bien.
Je me suis mise dans la peau d'un homme pour l'écrire. Donc peut-être qu'il y avait là une réponse, qui sait, je vous laisse.
Ce premier livre, c'était Les Fidélités, traduit en 8 langues. Il était écrit comme un homme, il était lourd et médiocre. Monsieur.
Justement pas, elle a pris le rôle d'un homme et a donné...
Tenez bien le micro.
Elle a pris le rôle d'un homme et a donné à cet homme une dimension qu'en fait il n'a pas.
Voilà, le plus beau compliment que j'ai entendu depuis longtemps. Mais derrière cette boutade, il y a quand même quelque chose de sérieux. Le côté fluide et le côté libre... Vous l'avez travaillé ou il est naturel parce que vous êtes des femmes? Parce que vous êtes des grandes lectrices, donc vous avez lu 10 000 auteurs masculins et féminins. Vous devez avoir un point de vue sur cette théorie audacieuse de Monsieur Brasseur.
Difficile.
Moi, je trouve que c'est un terrain miné, peu ce
absolument.
Genre de frontière.
On est en plein terrain miné, ça va sauter.
Allons-y.
Risquez-vous.
Mais en fait, parce que chaque généralité va. Il n'y a aucune généralité qui fonctionne et qui n'est vraie. Après, justement, moi, je suis d'accord qu'il n'y a. Pour moi, il n'y a pas une écriture féminine ou une écriture masculine, parce que je peux. Lire des auteurs masculins comme Michel Laya qui ont une sensibilité, on va mettre le mot justement, que nous on met dans la case féminité, mais et donc sensibilité, je sais pas, fluidité, mais en fait c'est d'abord des catégories culturelles. On pourrait être dans une autre culture où, pourquoi pas, ce serait attribué au masculin, et en tout cas il y a nettement des différences de conception de qu'est-ce que le féminin, le masculin en fonction des cultures. Donc après, qu'on soit nous pétris de ça aussi, oui, on n'en est pas. Enfin, moi, je suis née ici, j'ai grandi avec des stéréotypes aussi, et donc j'en suis aussi pétrie d'une certaine façon en tant que femme. Mais c'est justement, je pense, en écrivant, on cherche justement un endroit. Et là, je suis d'accord où il y a plus de sexe, en fait, où il y a plus de genre, où j'ai aussi écrit mon premier roman en je comme un homme, un chasseur en plus. Et où on m'a pris régulièrement. Effectivement, je me souviens du premier salon du livre ici, où on cherche, beaucoup de gens cherchaient un homme.
Monsieur Loup.
Voilà, Monsieur Loup. Et puis, voilà, j'avais pas la moustache. Alors, voilà. Et oui, et c'est bien que ça nous arrive. Ça prouve bien qu'il y a des personnes qui avaient lu le livre. Donc, ce qui prouve bien que justement, on peut pas dire ah oui, si on ne sait pas est-ce que c'est un homme ou une femme, est-ce que vraiment on saurait si bien que ça déterminer ce livre-là a été écrit par un homme, par une femme? J'en suis pas certaine. Après, qu'il y ait des grandes lignes, des choses qui reviennent peut-être, mais que les hommes, les écrivains en public parlent peut-être plus, moins d'intime, peut-être, mais je sais pas.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, mesdames et messieurs?
Alors, on est là justement pour faire bouger ces lignes-là, et en tout cas essayer de.
Madame.
C'est une question un peu différente qui concerne la géométrie masculine. Pour moi, la géométrie, enfin la nature a un grand rapport avec la géométrie. C'est directement inspiré par la nature. Et la nature est féminine. Alors je vous laisse la question en suspens.
Est-ce que vous pouvez la reformuler? Parce qu'en fait, je n'ai pas compris.
Plus simplement, quel est le rapport justement entre la géométrie et le masculin? Ce que monsieur parlait de la géométrie, l'écriture géométrique en trois dimensions. Et pour moi, la géométrie, c'est féminin. Parce que la géométrie est inspirée de la nature.
Et que la nature est féminine.
Je m'approprie des trucs.
Ce sera un sujet de dissertation, vous avez une heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui s'adressent directement à nos auteurs?
Aïe, aïe, caramba.
Pas de chance.
Vous pouvez développer, s'il vous plaît?
Non. La géométrie est-elle quelque chose de masculin?
L'écriture en trois dimensions, est-ce que c'est vraiment masculin? Parce que moi, je ne le vois pas comme ça. C'est ça la question que je me pose.
Non, je dirais que... Non, enfin, pour moi, les formes géométriques... Non.
Vous qui êtes plasticienne...
Oui.
Vous travaillez avec des formes. Elles ne sont pas plus ou moins plus masculines que féminines?
Non.
Non.
Non, elles sont unisexes.
Voilà.
D'accord.
Alors, unisexes, on a répondu, c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mesdames et messieurs? Alors, moi, j'en ai une à nos trois autrices, auteurs, je ne sais pas comment on doit dire. Qu'est-ce que j'ai oublié d'essentiel? Que vous auriez voulu dire, que j'aurais dû vous faire dire et que je n'ai pas vu passer. Parce que c'est toujours le problème de l'animateur. Il lit des livres, il repère des choses, il sait qu'il en rate beaucoup et peut-être qu'il rate l'essentiel. Alors, je vais commencer par vous. Vous aimez les questions. Qu'est-ce que j'ai loupé?
Je pense qu'il y a une question de sensualité, en fait. Dans le livre de Diane, dans le livre de... Duna, il y a un rapport très sensuel à l'écriture, un rapport à la matière, au corps, et ça, je pense que ça, c'est un sujet de conversation.
Alors, moi, je l'ai senti beaucoup chez vous, parce que c'est quelque chose qui est exprimé. Dans la partition, oui, Kula est une personne incroyable, difficile à décrire, enfin, on peut pas la raconter, mais il y a effectivement un rapport très sensuel au personnage et à l'écriture. Mais ça, je connais pas vos autres livres, contrairement à monsieur, donc je sais pas si c'est quelque chose qui vous est propre ou si vous êtes adapté parce que Kula est Kula.
Je pense qu'il y avait un peu, pas d'adaptation, je ne suis pas sûre que le mot adapté soit le bon, mais enfin, naturellement, le ton a épousé les formes très grecques de Kula. Mais en fait, par rapport à ce que tu dis, je pense que moi j'avais envie, puis j'ai surtout passé un certain temps sur ce livre, ça, il a été plus long à écrire que les deux premiers. Et j'avais envie d'aller dans une écriture que ça soit joyeux, en fait, que l'acte d'écrire soit joyeux, heureux, goulu.
Pour vous.
Pour moi.
Et, indépendamment et, des drames qui peuvent surgir.
Absolument. Parce que je pense que le dernier a été beaucoup plus aride, dur à écrire, et qu'il y a eu un corps à corps, justement. Et j'avais pas envie de renouveler ça. J'aimais bien l'idée d'aller. De me mettre le matin à ma table de travail et que ça soit joyeux, enfin gai, joyeux, sensuel, goulu, enfin qu'il y ait quelque chose de, et voilà, si ça se ressent dans le style, dans la langue, dans la voix, en fait, ça, j'en suis ravie. Ouais.
Oui, pour moi, en tout cas, ça, il y a plein de moments, il est question de corps, et puis ce corps, on l'a dans les mains, quoi. Enfin, on a la peau sous la main. Duna aussi, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant là. Il y a des odeurs, c'est le corps dans toute son ampleur, dans sa sensualité, mais dans l'odeur, dans le grain de la peau, toutes ces choses là et je trouve les larmes, tout, je trouve ça très beau.
Qu'est-ce que vous avez à dire sur le livre de Gabriella à ce propos, puisque vous l'avez lu, Duna?
Il est aussi justement évocateur de, avec, comme on dit, je disais tout à l'heure, une économie de mots, mais qui est aussi où le corps est présent, les sensations, avec très peu de. D'éléments, il y a toute une ambiance aussi, donc un rapport. Je dirais qu'il y a quand même un côté sensuel aussi dans ce livre et cette écriture. Elle parle beaucoup de la chaleur qui fait, de ses sensations corporelles, ou alors si c'est qu'elle se sent pas bien ou malade ou enfermée, mais il y a quelque chose en tout cas qui ramène au corps aussi, qui est assez constant, il me semble, dans le rapport au corps.
Mais je l'ai dit tout à l'heure à Gabriella, mais ce qui m'a frappée dans son roman, c'est la voix d'Antonia, parce qu'en fait, je lui disais que j'avais la sensation qu'on avait fait toutes les deux une sorte de trajet inverse, en fait, par rapport à nos deux livres, et en lisant ton roman, je savais pas qu'on pouvait approcher à ce point l'intimité, être aussi près, toucher aussi près l'intime et être aussi près d'une voix. C'est cette sensation là que j'ai eue, en fait, d'être dans la peau, dans le corps, dans l'intime, mais et ça c'est très fort.
On va s'arrêter là. Merci beaucoup à nos trois auteurs d'être venus ce soir. Vous êtes sous la tente pour continuer la discussion, amorcer la discussion avec le public qui viendra vous parler de manière plus libre en direct. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne suite de dédicaces.
Merci
et de salons.
Merci.